J'étais un peu indécis quant à ce que je vais dire ce matin. J'étais assis là derrière avec Frère Reagan et j'ai entendu, Frère Neville disait quelque chose en regardant vers moi et j'ai dit à Frère Reagan, est-ce qu'il m'appelle? Il a dit, oui, il vous appelle. Alors me voici sur l'estrade pour dire quelque chose ce matin. Je me disais, ce ventilateur-là, ça tire la voix, on dirait vraiment que ça l'emporte quand on parle. On dirait que le ventilateur enlève tout de suite la voix. J'entendais un témoignage quand j'étais là dans mon bureau pour prier pour cette femme au téléphone, et celle qui avait reçu le message a oublié de noter la ville de l'endroit où il fallait appeler, le message de l'épouse du docteur Morrison. Et je vais simplement vous dire ce que j'ai fait pour votre prière à vous tous et la mienne. J'ai posé les mains sur le téléphone et j'ai montré du doigt le numéro de l'endroit où c'était et j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Si je pense qu'il écouterait ça autant que s'il ferait, et puis j'ai simplement raccroché. Et il se pourrait que ce soit comme ça, que le Seigneur voulait que ce soit, oui. Il se pourrait que ce soit mieux comme cela. Et alors, j'ai entendu les témoignages pendant que j'étais là. Quelqu'un qui disait que Sœur Rook, je crois que Frère Neville a dit qu'elle avait un genre de dépression mentale. Accrochons-nous à Dieu pour cela. En se souvenant de ceci, Dieu connaît les siens. Il connaît tout à leur sujet. Vous entendez bien là derrière? Sinon, il y a des places vides ici devant, vous pouvez changer de place si vous voulez. Et voyons, est-ce que ceci est le micro principal? Celui-ci, c'est le micro principal? OK. On va voir si on peut le rapprocher un tout petit peu. Et si on le plaçait juste ici, Jean, comme ça, ce serait très bien. Parce que parfois, je suis un peu enroué. J'ai prêché pas mal. Est-ce que ça va mieux comme ça? Vous m'entendez mieux? Certainement, nous voulons nous souvenir d'eux dans la prière. Et nous voudrions signaler les réunions glorieuses. Est-ce que c'est Sœur Rook que je vois? Je pensais que c'était cette dame-là qui lui ressemblait. Je me suis dit, certainement, je ne vois pas double. On dirait que quelqu'un lui ressemble à l'arrière. Elle est à l'hôpital Saint-Edward. À Cleveland, dans le Tennessee, et aussi en Californie, nous avons eu des réunions glorieuses. Le Seigneur a béni abondamment et il a accompli beaucoup de choses. Et nous sommes heureux de cela. Nous sommes heureux de pouvoir revenir vers les nôtres, faisant le rapport de sa bonté et de la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faisait dans la Bible. J'ai apprécié la prière de Frère Neville ou de Frère Beeler, comment il a prié pour les gens et en demandant l'aide et la miséricorde. Et si nous regardons simplement tout au long, vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose d'authentique là-dedans. Et alors, comme Frère Neville, il est venu et il a fait avancer ses diacres ici à l'estrade pour prononcer les bénédictions de Dieu sur l'offrande de l'Église. Et je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu de ces hommes, de la façon dont ils priaient les uns pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres et les diacres, à leur tour, qui prient pour leur pasteur. Quand vous voyez une église adopter une telle collaboration, eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'église doit être en ordre. Et ça m'a donné une idée pour un sujet. J'avais l'intention de parler de la bénédiction à Kadès et du refus d'écouter le rapport des espions. Mais alors je me suis ravisé, j'ai décidé de parler de quelque chose d'autre. Et maintenant, en ce qui concerne la guérison, il y a juste un petit témoignage que je voudrais donner. J'espérais voir mon garçon Billy là derrière. Il a ça dans sa poche. Et Billy va beaucoup mieux dans la réunion qu'avant. Il était nerveux, bouleversé. Il parlait un peu comme ceci. « Oh, va t'asseoir, va t'asseoir. Je vais vous donner une carte de prière. » Et j'ai remarqué récemment qu'il y a des gens qui viennent à la réunion et vraiment, il les prend en pitié. S'il lui reste plus de cartes de prière, alors il les installe dans une pièce pour que j'aille prier pour eux. Il est arrivé quelque chose à Chicago la dernière fois et je voudrais lire cette lettre, du moins s'il arrive. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il ne savait pas que je viendrais ici ce matin et que j'aurais besoin de cette lettre. Mais ça m'est simplement venu à l'esprit quand j'ai pensé à toutes ces maladies. Et voici ce qu'il en est. C'est une lettre recommandée. Je lisais dans le journal, non, on me l'a rapporté, que les journaux critiquaient Oral Roberts d'avoir prié pour une femme qui était atteinte du diabète et qui était morte. Maintenant, en tant qu'Américain, j'aime bien écouter les lois et ceux qui ont l'autorité, mais je pense que ce n'est pas juste. Je me demande s'ils voudraient parler dans le journal de tous ceux pour qui Oral Roberts a prié et qui ont été guéris et que les médecins avaient abandonné. Je me demande s'ils voudraient faire le contraire une fois, voyez-vous. Ils ne le feraient pas. Et alors, je pense peut-être que le diable les a tellement brouillés et Dieu permet cela. Alors, et au jour du jugement, ils devront rendre des comptes. Mais moi, je connais des milliers de gens pour qui Oral Roberts a prié, qui étaient mourants et qui sont rétablis. Ainsi, voyez-vous, ils sont injustes à ce sujet. Ils vont publier leur point de vue critique, mais ils ne publieront pas l'autre point de vue. Le journal est censé tenir le public au courant des événements qui se produisent. Alors, je pense que si les êtres humains sont intéressés les uns aux autres, alors si quelqu'un est guéri, vraiment guéri, tous les journaux des États-Unis devraient publier cet article-là. Mais on ne peut pas les engager à faire cela. Non. Présentez-leur quelque chose comme ça, ils vont ricaner, s'en moquer. Mais s'il y a quelque chose à critiquer, ça montre simplement que cette nation est prête pour le jugement. C'est juste. Il doit y avoir un jugement, il n'y a pas moyen d'y échapper, et ils ne font qu'amasser des charbons ardents sur leur tête. Et ils sont tellement dissociés par rapport au principe. Le principe d'un journal, son principe, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leur principe. Et lorsqu'ils sont éloignés de leur principe, alors ils n'accompliront pas leur but correctement. Et c'est la même chose avec l'Église. Lorsque l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons être unis. Nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens, à moins d'être d'un même cœur, d'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont justes. Nous devons toujours nous tenir près de ces choses-là. Billy avait mis dans la pièce à Chicago, quelqu'un était venu vers lui, une femme, avec son mari qui avait un cancer du poumon et il mourait. Et sa femme était une victime de la polio, elle était dans une chaise roulante. Et elle essayait de prendre soin d'un homme qui arrivait à peine à se mettre debout et qui avait un cancer au poumon. Et Billy lui a dit, « Je suis désolé, monsieur. » Il a dit, « J'aimerais bien vous donner une carte de prière, mais il ne m'en reste plus une seule. » Et il a dit, « Eh bien, d'accord, fils. » Il a dit, « Nous sommes efforcés de venir jusqu'ici, mais c'est vraiment pas facile pour nous. » Billy a dit, « Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais aller chercher papa, je vais le faire rentrer, ensuite je le ferai sortir. » Et à ce moment-là, dès que vous aurez entendu son message, alors prenez votre femme et vous et entrez dans cette petite pièce-là par laquelle je passe et je lui demanderai de prier pour vous. Il a dit, « Oh, ça c'est un beau geste de ta part, mon fils. » Il dit, c'est bien, voyez, voilà une attitude. C'est bien, c'est formidable. Et ce soir-là, Billy, quand il est allé là, contrairement à ce qu'il avait dit, il y avait là son beau-frère qui saignait, qui souffrait d'hémorragie pulmonaire, et aussi sa belle-sœur qui saignait à l'estomac à cause d'ulcères. Ils étaient entrés là avec eux. en prétextant les aider à entrer. On doit faire attention, sinon on pourrait remplir toute une pièce, voyez. Mais après être passé là pour prier pour eux, nous avons reçu une lettre par la poste disant que cet homme est parfaitement guéri du cancer des poumons. La femme, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant, elle est sur pied, elle se déplace aussi normal qu'avant. Et l'homme qui souffrait d'hémorragie des poumons causée par la tuberculose est complètement guéri, et son épouse est guérie de ses ulcères. Tous les quatre guéris d'un seul coup. Je me demande si les journaux voudraient publier ça. Voyez? Oh, mais Dieu est toujours Dieu. Il fait simplement les choses à sa manière, vous savez. Et il est tellement bon. Nous sommes tellement heureux de savoir qu'il est Dieu. Nous parlions l'autre matin d'un jeune prédicateur que nous connaissions. Il avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades. Il était allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, « Eh bien, il est utile, il n'y a pas de Dieu, il tiendrait sa parole. » Il a dit, « Je les vois exactement comme dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. » Il a dit, « C'est juste un livre. » Maintenant, ça semblerait comme ça à moi de connaître Dieu. Et c'est une partie des Écritures, mais ce n'est pas toute l'Écriture. C'est sur la base de la foi de l'individu. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir. Je sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse sur moi, eh bien, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main de miséricorde sur moi, je resterai sous sa conduite. Je continuerai. Mais j'ai demandé à Meda et j'ai dit, qui était dans la chambre ce matin-là après la vision où j'ai vu ma petite fille Sharon? En fait, l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. J'étais dans la rue et vous connaissez mon histoire de la vision que j'ai eue. Je regardais, j'ai vu venir près de moi une jeune fille qui descendait la rue ici à Jeffersonville, tout à fait exactement comme cette vision. J'ai dû me serrer les mains. Elle ressemblait tellement à la vision que j'avais eue de ma petite Sharon. Il y avait une jeune femme là. Et après cette vision ce matin-là, quand dans la gloire, Hope me disait, elle avait le bras autour de mes épaules, elle disait, ne te fais pas de soucis pour nos Bill. Nous sommes mieux comme cela. Je voulais me suicider. Et elle a dit, « Ne te fais pas de soucis, promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. » Et j'ai dit, « Je ne peux pas promettre ça, Hope, parce que je me fais du souci, c'est plus fort que moi. » Et je suis sorti de la vision, j'étais debout là, dans cette chambre sombre. Et ce n'était pas une vision, ni une imagination, mais son bras était encore autour de moi. Et elle me tapotait. Et je me suis dit, « Attendez une minute. » Je ne savais pas comment l'appeler à ce moment-là, une vision, j'appelais cela une transe. J'ai dit, ceci, sa main est encore là. J'ai dit, est-ce que tu es là, Hope? Elle a dit, Bill, promets-moi que tu ne feras plus de soucis pour moi à mon sujet et Sharon. Parce que j'étais vraiment au bout de la route. J'étais sur le point de me suicider. Et j'ai dit, je te le promets. Et elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a tapoté avec sa main. Et puis j'ai dit, Hope, où es-tu? J'ai avancé à tâtons jusqu'à ce que j'ai saisi la petite chaîne de la lampe. J'ai tiré, j'ai cherché partout, j'ai inspecté les chaises pour voir s'il était là. Il est Dieu. Il est Dieu aujourd'hui tout autant qu'il l'était sur la montagne de la Transfiguration quand Moïse et Élie sont apparus. Il est toujours Dieu. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose. Je cours vers le but de la vocation céleste. Chaque jour, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour quand je le verrai face à face et que je raconterai l'histoire sauvée par grâce. C'est pour ce jour-là que je vis. Laissant en arrière les choses qui y sont, je veux courir vers le but, continuer à avancer. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes debout, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre. Mais dans cette foi que nous prêchons maintenant, pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. Si vous croyez que je suis son serviteur, ceci est le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, « Ne crains pas, petit troupeau, car c'est la bonne volonté de ton Père de te donner le royaume. » Maintenant, il y a un groupe d'offices dans notre Église, des diacres, des administrateurs, surveillants de l'école du dimanche, pasteurs, selon l'ordre établi dans notre Église. Et vous êtes les gens qui avez élu ces offices et ces pasteurs. Je suis simplement le surveillant général, je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien, pour donner des conseils, et ainsi de suite. Et c'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque office qu'il y a dans l'Église. C'est vous, les gens. Et c'est votre devoir de vous tenir près de ces hommes. Oui. Ils vont faire des erreurs. Ce sont des hommes, des mortels. Ils feront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on va le renvoyer comme président? On oublie ça et on va de l'avant. C'est ainsi que nous voulons faire avec notre Église maintenant. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres et d'entendre là derrière à la porte un témoignage des administrateurs que vous êtes tous d'un même accord. Maintenant, restez comme ça maintenant, souvenez-vous. Restez avec ces administrateurs, diacres et pasteurs. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme cela, souvenez-vous que ce sont les affaires du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Ça a toujours été et ce sera toujours ainsi. Voyez, mais soutenez vos frères, ces offices. Voilà ce dont je voulais parler. Et aussi, j'ai un tableau d'affichage ici ce matin concernant la réunion des conseils et les autorités. On mettra ça sur le tableau d'affichage. J'ai une copie pour Frère Robertson, qui est le président des administrateurs. Et j'ai aussi une copie pour Frère Collins, je pense, qui fait fonction de président du conseil des diacres. Et maintenant, tous ces offices sont établis selon les Écritures, ils doivent avoir les règles bibliques de ce qu'ils doivent faire. Par conséquent, les administrateurs ont leur office à eux et les diacres ont leur office à eux. Le surveillant d'école du dimanche a son office à lui et le pasteur est la tête du troupeau. Maintenant, selon chacune de ces fonctions, ils ont des choses en commun et je pense que vous ne devriez pas avoir vos réunions ensemble, mais séparément, selon chaque fonction, parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins d'avoir quelque affaire à leur soumettre. Et vice-versa, les administrateurs sont responsables des finances, de ce qui concerne le bâtiment, ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'Église et les assistants du pasteur. Et les administrateurs sont responsables de tous les biens. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ce doit être... Et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tout ça rédigé et tapé à la machine pour qu'on puisse le mettre là au tableau. Et nous allons aussi le mettre dans un cadre, la doctrine pour laquelle l'Église se tient, et nous allons l'afficher là dans un cadre, les principes sur lesquels nous tenons, la doctrine de l'Église. Maintenant, pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Ne plantons pas de jalons en disant « nous allons jusque-là et pas plus loin ». Dans la communion fraternelle avec tout le monde, nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller dans ses Écritures avec les gens. Alors restez ensemble, soyez d'un même accord, d'un même cœur, et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que vous fassiez. Maintenant, prions. Ensuite, nous irons dans la parole. Ô précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point de nous approcher de la parole divine ou la lecture de cette parole, que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. et donne-nous de parler, Seigneur, et d'agir, de vivre, en sachant que nous sommes tous tes enfants par grâce, puisque tu nous as appelés. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette Église, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qui nous semble qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas, ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi. Je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé, formé pour prendre la relève, et que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et pour laquelle nous nous tenons gravement devienne un cercle autour du monde. Accorde-le, Seigneur. Que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce que c'était le jour où nous l'avons consacré, que ce soit une église qui s'élève ici, Seigneur, d'où sortiront des ministres et des évangélistes, et des docteurs et des missionnaires qui iront vers toutes les régions du monde. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stricker qui souffrent en ce moment. Mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, mis à l'épreuve. Et si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour, alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Donne à frères et sœurs Stricker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste, quitte à devoir mendier leur nourriture, mais que ta main bénissante soit sur eux. Car nous savons, mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones d'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde le Seigneur maintenant et que tout se fasse selon ta volonté. Bénis ce pasteur, frère Neville. Nous prions, Seigneur, que tu fasses de lui un berger du troupeau comme tu l'as fait dans le passé. Et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser frère Neville avec ce groupe d'enfants sans mère. Mais nous tenons là et nous plaçons notre foi par le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée des ténèbres de cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle. Bénis ces petits enfants. Elle sera nerveuse maintenant et agitée, mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde en tout temps pour cette famille. Bénis notre conseil des administrateurs, notre frère Wood et notre frère Egan, frère Robertson, et tous les autres, Seigneur, les diacres, les administrateurs, et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église, nous te prions, Seigneur, de leur donner exercer leur mandat dans la sainteté et dans la justice. Bénis, Seigneur, ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé, et nous te prions de continuer à être avec nous tous, de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité, dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur. Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole selon nos besoins, alors que nous lisons dans ta parole écrite, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et en priant, je pensais, pendant que nous demandions la bénédiction pour notre conseil, notre nouveau conseil des administrateurs, je pensais à frère Fleeman et frère Dietzman et ceux qui sont assis là qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour leur service loyal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. Je voudrais lire. Souvenez-vous maintenant le tableau d'affichage et tout et les réunions qui auront lieu prochainement. Et nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin. Eh bien, je pourrais le dire comme ceci, un homme qui m'a été très précieux dans le passé et qui m'est précieux maintenant, un bon frère, Fred Softman et son épouse de Saskatchewan au Canada, qui est ici pour séjourner avec nous. dans notre nation, demeurer dans le pays, mais dans notre communion, c'est un frère bien-aimé, frère Fred Softman. C'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada. Et un autre précieux frère, qui était aussi autrefois un Canadien, et qui était un homme d'affaires, et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. Lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction d'un bâtiment, aux missions étrangères, une fondation. Ils m'ont fait venir à Oakland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent, qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation. Fred et moi, nous avions essayé ça avec de l'argent que frère Fred avait et je n'avais pas voulu accepter à titre individuel. Nous avions décidé de donner ça aux Canadiens et de ne même pas prendre d'offrande, mais ce n'a pas été un succès. Les réunions se sont bien passées, mais parce que nous n'avions pas ramassé d'offrande, peu importe que l'Église vaille 100 milliards de dollars, voyez, et on doit quand même à Dieu de ramasser une offrande. Ça fait partie de l'adoration. Et vous voyez ça, et autant que je suis contre l'argent et ces choses-là, j'ai découvert que quand un homme a tort, autant admettre qu'on a tort. En effet, frère et moi, nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. Et frère Borders, quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Oakland, j'ai dit, mais faites surtout pas ça. Faites passer le plateau d'offrande. Prenez une offrande. Que ce soit, mettez-le dans votre fondation pour une autre réunion quelque part. Et avant la fin des réunions, frère Borders et ses amis sont venus me dire, tout ce que nous avions mis dans la réunion a déjà été recueilli. Et puis, il y a quelques jours, il a organisé une réunion à San José, en Californie, où il a réuni, je pense, 60 ou 70 églises dans la vallée. Toutes les différentes confessions qui ont collaboré, nous avons eu une convention formidable. Nous y sommes retournés. Nous allons y retourner en novembre. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frère Borders et frère Fred, assis là-bas. Et ces hommes sont peut-être inconnus à vous tous, mais ils ont été des frères précieux pour moi sur les champs de mission, combattant pour la foi pour laquelle nous nous tenons. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin dans ce petit tabernacle. Il n'y a pas grand-chose à regarder, mais il y a quelque chose ici. Nous savons que Dieu habite ici, voyez. Alors nous sommes heureux pour cela. Et il y a d'autres précieux frères, si j'avais le temps, je les mentionnerais, qui sont avec nous aujourd'hui. Maintenant, je suis dans l'anticipation et je prie, c'est que dans les jours qui viennent, Dieu voulant, je voudrais aller, je me sens conduit, je ne l'ai pas encore annoncé, la prochaine réunion dans l'Ohio pourrait être avec Sullivan au terrain de camping très prochainement. C'est seulement un trajet d'environ 160 km pour aller là. Et je pense, Gene, quelque chose comme ça, ce serait un beau voyage si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances, si le Seigneur continue à nous conduire. Un homme très bien, frère Sullivan. C'est le maire de la cité. C'est le maire de la ville, là. Un ex-maire. Et c'est un homme du Kentucky à l'ancienne mode. C'est tout ce que je peux dire de lui. Quand je l'ai rencontré l'autre jour, tous les deux, nous avons grandi là-bas dans les montagnes du Kentucky. Il m'a dit, est-ce que tu as toujours ton asafoetida autour du cou, Billy? Vous savez, vraiment qu'il est du Kentucky. Maintenant, non, je ne vais pas manquer d'égard envers mes frères du Kentucky, frère Jeffries et les autres. Ouais, je suis du Kentucky aussi, vous savez. Et je vais vous dire une chose comme ça. Nous ne sommes pas du Kentucky, nous ne sommes pas non plus des Américains. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous cherchons une ville à venir, une cité. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode pendant quelques minutes. Je voudrais lire au chapitre 23, au verset 20, jusqu'au verset 23 inclus. Et je voudrais tirer un sujet ce matin, de ceci plutôt, une délivrance totale. Je ne serai pas long. J'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Obéis à sa voix. Ne le provoque pas parce qu'il ne pardonnera pas tes transgressions. Car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'Assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. Et si tu obéis à sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole, alors que nous parlerons maintenant pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Je pensais à ce sujet une délivrance totale. L'Église a été dans la minorité. Elle le sera toujours quant aux membres jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit de l'annoncer. Il m'avait dit hier, il va avoir un service de baptême. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au tabernacle de la sainteté à Utica. Et frère Junior Jackson à New Albany. Et il y en a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait plus ou moins, comme si nous étions vaincus. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, c'est que ça m'est venu à l'esprit, que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu et alors ils mettent ça de côté, eh bien Dieu peut le faire, mais ce n'est pas la bonne attitude. Maintenant Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui avec quoi prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui pour enseigner. S'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui pour voir des visions pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon. Et il l'a instruit d'une certaine façon. Et il l'a modelé, il l'a formé, il l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens, alors qu'il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens, mais parfois ils sont des chrétiens à moitié. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme cela. Ce sont leurs propres voies qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme cela. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre. Il veut qu'ils se tiennent complètement dans la brèche. Maintenant, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement abandonné dans les mains de Dieu. C'est la raison pour laquelle il était ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu, au point que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Je me demande ce matin si en tant que chrétien, si nous avons abandonné notre propre volonté, et si nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous, dans la position où il nous a placés. Je me demande ce matin, si moi-même, si je pourrais être tellement abandonné à Dieu au point que Dieu puisse avoir confiance en moi, avoir confiance en Frère Neville, avoir confiance en notre conseil des administrateurs, des diacres, des membres de notre Église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'épargnera rien envers personne. S'il est appelé à être prédicateur et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne touchera jamais un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson, alors il tournera complètement la tête de la boisson. Si nous ne croyons pas dans les jeux d'argent ou fumer, les membres de cette Église ne devraient jamais toucher une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Lorsque nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Il pourra se refléter en nous alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous imaginer Christ fumer un cigare? Pouvez-vous imaginer Christ en train de boire ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession, mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort en faisant ces choses. Et lorsqu'un membre parle mal d'un autre, vous savez que c'est mal. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Et non pas de parler en mal les uns contre les autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu et nous ne plaisons pas à Dieu. Ainsi donc, notre Église, les gens ne peuvent pas prospérer, l'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Maintenant, si le conseil de l'Église, ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devrions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction comme nous avons maintenant. Alors c'est présenté à l'Assemblée générale comme on devrait le faire, toute l'Église étant souveraine. Et puis si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, pour moi, j'étais contre cette idée-là. C'est juste. J'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement m'en aller très bientôt, puisque le Seigneur m'a montré... Alors, à quoi bon avoir un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour cela. Ensuite, je suis venu. J'ai considéré le sentiment de l'Église, que l'Église, en majorité, semblait le vouloir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres pensées et je me suis rallié à l'Église. Bien sûr. Faisons-le. C'est ainsi que nous tirons au sort. Comme ça, c'était dans la Bible. Comme l'Église votait. La souveraineté, les groupes de gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. Et donc j'ai dit, certainement, si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus d'autorité par le vote de tout un groupe de gens que par moi, parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. Alors nous allons nous rallier à l'Église et nous avancerons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux, oui, pour donner un coup de main à l'Église. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. Ce pourquoi l'Église vote, c'est ce que nous devrions soutenir. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien alors, si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, alors on présente ça devant l'Église, alors l'Église est réunie. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église tout entière, alors sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. Et si cette Église continue simplement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il fera. Si nous restons collés ensemble, nous devons rester collés ensemble. C'est comme ça que nous voulons être, complètement les uns avec les autres, et alors tellement complètement entre les mains de Dieu. Alors nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors allez chercher quelqu'un qui le fait vraiment. Voyons la position que nous devons avoir. Et si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, alors soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause et c'est Dieu. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Aidez-le. Relevez-le. Réunissez-vous. Ayez un entretien les uns avec les autres. Voyez ce que les Écritures disent. Quand nous commettons une erreur, allons près de Dieu. Avant d'aller près de Dieu, nous devons aller près de la personne que nous avons offensée. Et j'ai dû faire cela. Dernièrement, et je sais que j'avais mal agi, j'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'Église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, environ 6 semaines. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner et le numéro de téléphone privé a sonné et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné. Elle a dit, ce sont les avocats. Où je pouvais plus supporter une autre. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Il me presse par ici, il me presse par là. Et je dis, je ne peux plus le supporter. Et je me suis levé d'un bond et j'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et je me suis précipité derrière la maison. Et quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte, elle était au bord des larmes. Elle a dit, Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Vous savez comment vous êtes. Je sais, moi, comment je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, j'étais pas là à ce moment-là. Mais elle a dit, mais tu étais là quand il a appelé. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Et avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Voyez-vous comment le péché corrompt? Quel genre de famille on aurait là à la fin? 1 Jean, chapitre 5, au verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais, il ne nous entendra pas. C'est fort, mais c'est l'Église a besoin de ces choses. Alors, je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui poser les mains, le Seigneur m'a repris, il a dit, « Tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. » Je me suis détourné de cet homme et j'ai dit, « Monsieur, attendez ici. Je dois aller rectifier quelque chose. » J'ai appelé l'avocat. Je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir et j'ai dit, « Écoutez, monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Il s'est avancé, il a mis les mains sur mon épaule et il a dit, « Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous, mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais. » Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. Je lui ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur parce que je savais que j'avais mal agi. Alors le lendemain, ma femme m'a dit, « Où vas-tu ? » J'ai dit, « Je vis à ma caverne. » Je suis allé à ma caverne, au nord de Charlestown, là où je vis depuis des années. J'y suis entré et j'ai prié toute cette journée-là. « Oh Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi, Seigneur. » Car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là, j'ai eu la condamnation. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis ressorti. Il y avait un gros rocher juste là. Je suis monté sur ce rocher et je regardais vers l'est, les mains en l'air. Je louais le Seigneur. C'était tellement calme là. J'ai dit, « Seigneur, si seulement une fois tu es passé près de Moïse, » il a dit, « quand tu l'avais caché là dans le creux du rocher, et ça ressemblait au dos d'un homme, j'ai dit, « Voudrais-tu le faire encore une fois, Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné ?» Et j'ai dit, « Si tu veux bien m'aider pour me mettre quelque chose à l'esprit, » j'ai dit, « Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement parce que je n'ai pas d'instruction. » Et j'ai dit, « Et j'essaie de te servir. Tu connais mon cœur. Je n'aurais pas dû faire cela. Je voulais pas faire ça. » On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment quand Satan m'a pris au piège. Et j'ai dit, « Si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur. » Et Dieu est mon juge, juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons. Il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne où j'étais. Il est reparti à travers les bois. « Oh frère, une paix qui surpasse toute intelligence, qui m'a envahi. » J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, j'étais désuni avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ce bébé. Et le lendemain même, un homme qui est venu de Chicago, un homme remarquable, un catholique nouvellement converti. Les valvules de son cœur avaient enflé comme une chambre à air gonflée et on voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire, mais il ne leur permettait pas. Finalement, il a obtenu un entretien. Ces entretiens, on reste là jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Et cet homme venait à peine d'entrer que le Saint-Esprit, alléluia, a remonté dans sa vie. Il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'Église catholique. Il a dit, « C'est la vérité. » C'est la pure vérité. Il a dit, voulez-vous dire que c'était la seule chose retenue contre moi? Et j'ai dit, c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Il est reparti, il a dit au médecin, il a dit, très bien, préparez tout maintenant, nous allons voir l'opération. Le médecin a dit, nous allons vérifier de nouveau ce cœur. Il a examiné, il a dit, vous n'avez pas besoin de cette opération. Voyez, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance totale. Nous ne voulons pas être une demi-église, nous voulons être une véritable église. Ou pas d'église du tout. Nous voulons être des chrétiens véritables ou pas de chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Enfin, lorsque les gens entrent dans l'église pour qu'on prie pour eux, qu'il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes ici, mais quand ils seront complètement entre les mains de Dieu, Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent les fonctions dans l'Église et aux pasteurs, et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusqu'à ce que l'Église et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera. Quand nous aurons un groupe uni, ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Maintenant, voilà le genre de personne que Dieu a destiné à prendre le pays, s'emparer du pays. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. S'il y avait du remue-ménage, des querelles et d'autres choses, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Pharaon voulait consentir, il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir, mais alors laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. Et c'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'Église, mais ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter. C'est pas nécessaire d'abandonner le tabac, la boisson, le mensonge, le vol, les critiques, la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'Église et c'est tout. Mais Moïse n'était pas quelqu'un qui faisait compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle derrière nous. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Voilà comment devrait être l'Église. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous prendrons le Saint-Esprit, nous prendrons un groupe unifié quand nous irons à l'autel. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul ongle ici. Vous savez, les gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là, ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moïse lui-même, il était unifié à Dieu, mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché et il murmurait contre Moïse. Et il disait, pourquoi fais-tu cela? Tu attires plus d'ennui. En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire et tout. Ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde des brebis pour garder les brebis de Dieu. Lui-même, il était totalement délivré. Mais le peuple n'était pas délivré parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hysope, ce qui est une herbe toute simple, ordinaire, humble, et appliqué sur le linteau de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré, sans laisser un ongle derrière. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. C'est là que l'Église sera complètement délivrée, quand tout aura été mis sous le sang. Quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand le fait de fumer, votre jeu d'argent, tricherie, votre vol, votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang, ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter, quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous aurez une liberté que vous n'avez jamais connue. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations, exactement comme nous. La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu'il a été, Hébreux 1, 4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a prouvé quand il est ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme, totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Il a déjà fait uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui, les grands hommes, et ils disaient, « Rabbi, tel et tel. » Ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leurs affiliations et leurs dénominations. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié en Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, « Tu le délivreras car il s'est confié entièrement en moi. » Voyez, « Je délivrerai mon unique des chiens parce qu'il s'est confié en moi. » À l'heure où nous arriverons à la fin du voyage de la vie, c'est ce que je désire pour la mienne. Je sais ce que c'est ce que vous désirez pour la vôtre. Je désire qu'il dise, « Je le délivrerai des mâchoires de la mort, car il s'est confié en moi. Je le délivrerai de la tombe le matin de la résurrection. Je le délivrerai totalement âme, corps et esprit, parce qu'il s'est confié en moi. » Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang, de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. Il a délivré l'Église. Alors nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite parce qu'il a vaincu le diable. Et il a pris toutes les dominations, les autorités et les a assujetties sous ses pieds. Alors elles n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous dicter sa volonté. Christ nous a délivrés. une délivrance totale. Il nous a délivré du mal, il nous a délivré du péché, il nous a délivré des habitudes, du commérage, délivré des propos injurieux, il nous a délivré de toutes sortes de saletés. Il nous a totalement délivré. Il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète, totale. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivré de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable. Alléluia! Car il a été blessé pour nos transgressions et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est notre guérisseur. C'est pourquoi cette pauvre petite femme, victime de la polio, qui essaie de prendre soin d'un mari qui se mourait du cancer, elle est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors elle a suivi les instructions de Dieu et elle a été totalement délivrée. Les disciples ont une délivrance totale. Une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur ou qui a une petite expérience comme de sauter, pousser des cris, parler en langue ou quelque chose comme cela, vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, dire des mensonges, fumer la cigarette, convoiter les femmes. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous voulons tous ensemble, nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes vous disent, « Voyons, donc ma chère, ça voudrait mieux que tu fasses ceci ou cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela ou que tu fasses ceci, que tu sortes avec cette bande exaltés. » Nous sommes tellement unifiés avec Dieu. Et vous direz, « Eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte. » Mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges et des miracles. Délivrer totalement chacun. Cher Dieu, tu n'acceptes quelque chose à moins que ce ne soit totalement délivré. Tu ne pourrais pas recevoir le sacrifice qui a un défaut. Tu ne recevras jamais une prière d'une personne qui a du péché quelque part dans sa vie. Tu ne peux simplement pas le faire, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, comme vie sacrifiée, enlève de nous, ô Seigneur, toute tache de péché. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts avec cette église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous de chaque péché que nous avons commis. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin, si bien que nous saurons en nous-mêmes qu'il nous a pardonné. Alors la prière sera, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde-le, Seigneur. Sois près de nous maintenant. Bénis-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir, que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur, que tu ne rejetteras pas, car nous voulons une délivrance complète et totale de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde. Une lampe qui est placée sur une colline, non pas sous le boisseau, mais une lampe qui est placée sur la colline et qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin, accorde le Père. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais demander à Doc, je pense qu'il est là-bas au fond, ou à l'un des diacres qui est présent, pour que l'Église puisse lire ceci. Doc, viens mettre ça sur le tableau d'affichage pour que l'Église puisse voir ça en sortant. Et puis, frère Collins, s'il est ici, est-ce que frère Collins est ici? Donnez-lui l'autre. Très bien. C'est quelqu'un qui voudrait avoir un entretien. Ça, c'est toujours accordé. Nous sommes contents. Et des entretiens, j'en ai. Voyez-vous, la chose que vous devez faire, c'est d'appeler à notre numéro là-bas. Nous avons eu tant d'ennuis à la maison, l'Église le sait. Et ce sont des nouveaux venus. L'Église est au courant. On devrait mettre un petit bout. Je vais demander qu'on affiche ça dans l'Église pour ceux qui viendront. Voyez-vous, il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout. On les prend un par un, par numéro. Voyez, si vous voulez simplement téléphoner à Butler 21519 Butler, et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin, je suis toujours content de voir les gens, mais nous avons une méthode habituelle. Il y a des gens qui ont déjà appelé plusieurs fois, et, voyez, nous les faisons passer l'un après l'autre. Voyez, autrefois, on faisait ça un peu au hasard, n'importe comment, on passait, on sautait, les gens rentraient chez eux déçus et tout. Maintenant, tout était mis en ordre, et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant, voyez-vous, de tout mettre en ordre de façon parfaite. Et je serais content de voir ces chères personnes s'ils veulent simplement composer Butler 21519 1519, et M. Mercier ou M. Gaud, l'un des deux, répondra au téléphone et il vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local là-bas climatisé et prêt pour qu'on puisse recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne demandons pas mieux que de faire cela. Maintenant, la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église, les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens. Ce n'est pas ça. J'essaie précisément, voyez, d'être tout à fait en ordre. Voilà ce que je veux. Voyez-vous, ne faisons pas exception de personne. Chaque personne, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, voyez-vous, la couleur, le credo, ça n'a rien à voir là-dedans. On va là, on rencontre les gens. S'ils ont un besoin, on reste là avec Dieu jusqu'à ce qu'on ait une solution. Voyez, pour ce qui concerne les réunions, s'ils veulent savoir quelque chose, bien sûr, on s'en occupe, puis on classe ça. Ça, c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit. Je pense que ça, c'est juste, voyez, sur un pied d'égalité, sans exception de personne. Vous voyez, il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin et qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux. Très bien. Il n'y en a pas. Alors, chantons ce bon chant-là pour l'adoration. Que pouvons-nous chanter ce matin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Tu connais ça, Teddy? Rien d'autre que le sang de Jésus. Très bien. Nous voulons prier pour elle maintenant. Je vais prier pour cette dame, imposer les mains à cette femme ici. Voudriez-vous courber la tête avec moi alors, tranquillement? Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade, notre sœur présente son corps, même pour enlever un cancer des autres, à se tenir la brèche pour les autres, mais tu l'as délivré de ça, Seigneur, il y a quelques jours quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour que cette autre femme qu'elle représente, que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le-nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons, parce que nous n'avons aucune condamnation. Accorde le Seigneur, c'est au nom de Jésus que je prie. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir, me guérir? rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais pas d'autre fontaine, rien que le sang de Jésus. Combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang? Chantons-le avec nos mains levées maintenant. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Maintenant, comme nous baissons les mains, serrons la main de ceux qui sont autour de nous. Je ne connais pas d'autre fontaine, rien d'autre que le sang de Jésus. L'aimez-vous? Maintenant, tenez-vous-en à ça, là, tout le monde. Accrochez-vous à Dieu. Je ne l'abandonnerai jamais.